Chapitre 15. Exprimer, mais voilà ce qui est nécessaire. La plus haute vision n'a aucune valeur si elle n'est pas manifestée et condensée en forme vivante. Et moi, j'ai tout à créer. Je ne verse pas ma substance dans des moules reçus en héritage. Mon œuvre est toute de mon invention. Je ne dois et ne veux obéir qu'à mon instinct et au génie de ma race. Et néanmoins, comme Dardi, qui vit chez Galerino Zeno, le fameux orgue, j'ai moi aussi devant l'esprit une autre œuvre exécutée par un créateur formidable, une œuvre gigantesque, là, au milieu des hommes. L'image du créateur barbare lui réapparut. Les yeux bleus brillèrent sous le front vaste, les lèvres se serrèrent sur le menton robuste, armé de sensualité, d'orgueil et de mépris. Puis il revit les cheveux blancs que le vent brutal agitait sur cette nuque sénile, sous les larges bords du feutre et l'oreille livide au globe gonflé. Puis il revit le corps immobile abandonné sur les genoux de la femme au visage de neige et le léger tremblement de ce pied qui pendait. Il se rappela son indicible frisson d'épouvante et de joie lorsqu'à l'improviste il avait senti sous sa main repalpiter le cœur sacré de Wagner. « Ah, ce n'est pas devant, c'est autour de mon esprit que je devrais dire. Parfois, cela ressemble à un océan furieux qui essaierait de me renverser, de m'engloutir. Mathémodia est une roche de granit en haute mer, et je suis, moi, comme un ouvrier occupé à y construire un pur temple dorique parmi la violence des flots contre lesquels il doit défendre l'ordonnance de ses colonnes, l'esprit incessamment tendu pour ne jamais cesser d'ouïr parmi ce fracas le rythme intérieur qui seul réglera les intervalles de ces lignes et de ces espaces. En ce sens encore, ma tragédie est un combat. » Il revit le palais patricien tel qu'il lui était apparu dans la première aube d'octobre, avec ses aigles, avec ses coursiers, avec ses amphores, avec ses roses, clos et muet comme un haut sépulcre, tandis que sur le faîte, le ciel s'enflammait au souffle de l'aurore. Dans cette aube, continua-t-il, après la nuit de délire, comme je passais par le canal et longeais le mur d'un jardin, je cueillis de petites fleurs violettes poussées dans les interstices de la brique, et je fis aborder la gondole au palais Vendramin pour les jeter devant la porte. L'offrande était trop mince, et je pensais aux lauriers, aux myrtes et aux cyprès. Mais par cet acte spontané, j'exprimais ma reconnaissance envers celui qui devait imposer à mon esprit la nécessité d'être héroïque dans son effort pour s'affranchir et pour créer. Et s'animant d'un rire subit, il se tourna vers le rameur de l'arrière. « Te rappelles-tu, Zorzi, cette régate que nous courûmes un matin pour accoster le Bragozo ?»« Altro che ricordarmi, je crois bien que je me rappelle. Quel nage ! Oh, j'en ai encore les bras endoloris. Et cette coquine de fin, où la mettez-vous, Seigneur ? Chaque fois que je vois le patron de la barque, il ne me manque pas de me demander des nouvelles de cet étranger qui a avalé cette petite pige de pain avec cette corbeille de raisin et de figues. Oh, il dit qu'il n'oubliera jamais ce jour-là parce qu'il a fait la plus belle pêche de sa vie. Il a tiré de l'eau des maquereaux comme il n'en avait jamais vu. » Le rameur n'interrompit son bavardage qu'au moment où il s'aperçut que le seigneur ne l'écoutait plus et qu'il convenait de se taire et même de retenir son haleine. « Tu entends le chant ?» dit Stelio à son ami, en lui prenant doucement une main, parce qu'il regrettait d'avoir ravivé ce souvenir qui la faisait souffrir. Elle releva son visage et dit « Où est-il, dans le ciel, sur la terre ?» Une mélodie infinie se répandait dans la blanche paix. Elle dit « Comme il monte !» Elle sentit tressaillir la main de son ami. Lorsqu'Alexandre arrive dans la chambre lumineuse où la Vierge a lu la lamentation d'Antigone, dit-il, surprenant dans sa conscience un indice du travail obscur qui se poursuivait au fond de son mystère, il raconte qu'il a chevauché dans la plaine d'Argos et qu'il a traversé l'Inachos, fleuve de cailloux brûlés. Toutes les campagnes sont couvertes de petites fleurs sauvages qui se meurent, et le chant des alouettes remplit tout le ciel. Des milliers d'alouettes, une multitude sans nombre. Il raconte que, tout à coup, l'une d'elles est tombée au pied de son cheval, pesante comme une pierre, et qu'elle est restée là, silencieuse, foudroyée par son ivresse pour avoir chanté avec trop de joie. Il l'a ramassée. La voici, alors, tu tends vers lui ta main, tu la prends et tu murmures « Oh, elle est tiède encore !» Et pendant que tu parles, la Vierge tremble, tu la sens trembler. La tragédienne sentit de nouveau se geler la racine de ses cheveux, comme si de nouveau l'âme de l'aveugle fût entrée en elle. À la fin du prélude, oh, l'impétuosité des progressions chromatiques exprime cette joie grandissante, cette anxiété d'allégresse. Écoute, écoute, ah, oh, quelle merveille! Oh, ce matin, Fosca, je travaillais. C'est ma mélodie, la même qui maintenant se développe dans le ciel. Mais ne sommes-nous pas en état de grâce? Un esprit de vie courait à travers la solitude, une aspiration véhémente rendait le silence ému. Il semblait que dans les lignes immobiles, dans les horizons vides, dans les eaux planes, dans les terres couchées, une volonté naturelle de s'élever passa comme un réveil ou comme l'annonce de quelque grand retour. L'âme de la femme s'y abandonna toute comme une feuille à un tourbillon, et elle fut ravie au sommet de l'amour et de la foi. Mais l'impatience fébrile de l'action, la hâte d'entreprendre, le besoin d'exécuter, assaillirent le jeune homme. Sa capacité de travail sembla se multiplier. Il se représenta la plénitude de ses heures à venir. Il vit les aspects concrets de son œuvre, l'entassement des pages, et les parties d'orchestre, et la variété de la besogne, et la richesse des matières aptes à recevoir le rythme. Il vit de la même façon la colline romaine, l'édifice naissant, l'équilibre des pierres taillées, les ouvriers appliqués au maçonnage, l'architecte vigilant et sévère, la masse du Vatican vis-à-vis du théâtre d'Apollon, la ville sainte étendue au-dessous. Il évoqua en souriant l'image de ce petit homme qui soutenait l'entreprise avec une magnificence papale. Il salua la figure exsangue et nasue de ce prince romain qui, ne fourlignant pas de l'honneur de son nom, employait l'or accumulé durant des siècles de rapine et de népotisme à élever un temple harmonieux consacré à la renaissance des arts qui avait illuminé de beauté la vie forte de ses ancêtres. « Dans une semaine, Fosca, mon prélude sera terminé, si la grâce m'assiste. Oh, je voudrais tout de suite l'essayer à l'orchestre. Peut-être irai-je à Rome pour cela. Antimo Delia Bella est plus importante que moi-même. Presque chaque matin, je reçois une lettre de lui. Je crois que ma présence à Rome pour quelques jours sera nécessaire aussi afin d'empêcher certaines erreurs dans la construction du théâtre. Antimo n'écrit que l'on discute sur l'opportunité d'abattre le vieil escalier de pierre qui du jardin des Corsini monte au Janicule. Oh, je ne sais pas si tu as dans la mémoire l'image de ce lieu. La rue qui conduira au théâtre après avoir passé sous l'arc de Septibius contourne le flanc du palais Corsini, traverse le jardin et arrive au pied de la colline. La colline, tu l'as dans la mémoire, est toute verdoyante, couverte de petites prairies, de roseaux, de cyprès, de platanes, de lauriers et d'yeuses. Elle a un aspect sylvestre et sacré, avec sa couronne de hauts pins d'Italie. Sur la pente se trouve une véritable forêt d'yeuses, arrosée par des courants souterrains. Toute la colline est riche d'eau vive. À gauche s'élève comme un château fort la fontaine Paolina. Plus bas est la tache noire du Bosco Palacio où siégeaient autrefois les Arcadiens. Un escalier de pierre partagé en deux branches par une succession de vasques larges et débordantes monte à une terrasse où aboutissent deux avenues de lauriers vraiment apolloniennes et dignes de conduire les hommes vers la poésie. Qui pourrait imaginer une entrée plus noble ? Les siècles y ont mis l'ombre du mystère. La pierre des marges, des balustres, des vasques, des statues rivalise d'âpreté avec l'écorce des platanes vénérables devenus creux par la vieillesse. On n'entend que le chant des oiseaux, le clapotement des jets d'eau, le murmure de la feuillée. Et je crois que les poètes, les simples, pourraient y entendre la palpitation des amas de riades et le souffle de Pan. Infatigable, le cœur aérien montait sans défaillance, sans pause, emplissant de lui-même tous les espaces pareils au désert immense, pareil à la lumière infinie. Dans le sommeil des lagunes, l'impétueuse mélodie créa l'illusion d'une anxiété unanime qui se fut élevée des eaux, des sables, des herbes, des vapeurs, de toutes les choses naturelles pour en suivre l'essor. Toutes les choses qui naguère semblaient inertes avaient maintenant une respiration profonde, une âme émue, un désir de s'exprimer. Écoute, écoute. Et les images de la vie évoquées par l'animateur, et les antiques noms des énergies immortelles qui circulent dans l'univers, et les aspirations des hommes à franchir le cercle de leur supplice quotidien pour s'apaiser dans la splendeur de l'idée, et les vœux, les espérances, et les audaces, et les efforts dans ce lieu d'oubli et de prière, en vue de l'île humble où l'époux de la pauvreté avait laissé ses traces, furent exemptes des ombres de la mort par la seule vertu de cette mélodie. Me dirait-on pas l'allégresse frénétique d'un assaut? En vain les rives pâles, les pierres émiettées, les racines pourries, les vestiges des œuvres détruites, les odeurs de la dissolution, les cyprès funèbres, les croix noires. En vain, tout cela rappelait-il la parole même que le long du fleuve les statues avaient exprimée avec leurs lèvres de pierre. Plus fort que tous les signes, ce seul chant de liberté et de victoire touchait le cœur de celui qui devait créer avec joie. En avant, plus haut, toujours plus haut. Et le cœur de Perdita, pur de toute lâcheté, prêt à toutes les épreuves, imitant l'ascension de l'hymne, se repromit à la vie. Comme à l'heure lointaine du délire nocturne, elle répétait « Oui, oh oui, servir, servir !» L'esquif entrait dans un canal renfermé entre deux berges vertes qui arrivait si exactement au niveau de l'œil que l'on s'y apercevait les tiges innombrables de l'herbe et que l'on y distinguait les nouvelles à leur couleur plus tendre. « Loué sois-tu, mon Seigneur, par-dessus notre mère la terre, qui nous soutient, nous nourrit et produit les fruits variés avec les fleurs colorées et l'herbe. À la plénitude de son âme, l'amante mesurait l'amour du poverello, Saint François d'Assise, pour les créatures. Telle était son abondance qu'elle cherchait partout les choses vivantes à adorer. Et ses yeux redevenaient enfantins et toutes ces choses s'y miraient comme dans la paix de l'eau. Et quelques-unes semblaient remonter de son plus lointain passé pour se faire reconnaître et se représentaient à elle sous un aspect d'apparitions inattendues. Quand l'esquif aborda, elle s'étonna d'être arrivée. « Veux-tu descendre ou bien préfères-tu retourner en arrière ?» lui demanda Stelio, secouant sa rêverie. D'abord, elle hésita parce que sa main était dans la main de l'aimé, et que se détachait de lui la fâchait comme une diminution de douceur. « Oui, répondit-elle avec un sourire, marchons un peu aussi sur cette herbe. » Ils débarquèrent dans l'île de Saint-François. Quelques jeunes cyprès les accueillirent timidement. Nul visage humain ne se montra. La myriade invisible emplissait de son cantique le désert. La brume se déchirait, s'agglomérait en nuages au déclin du soleil. « Sur combien d'herbes nous avons marché, n'est-ce pas, Stélio ?» Il dit, « Oui, mais à présent, vient la montée rocheuse. » Elle dit, « Oh, vienne la montée, et qu'elle soit rude. » Il s'étonna de la gaieté inaccoutumée qu'il y avait dans l'accent de sa compagne. Il la regarda, au fond de ses beaux yeux, il vit l'ivresse. « Et pourquoi, dit-il, nous sentons-nous si joyeux et si libres dans cette île perdue ?»« Tu le sais, toi ?»« Bah, pour les autres, c'est un pèlerinage triste. Quand on vient ici, on s'en retourne avec le goût de la mort dans la bouche. » Elle dit, « Bah, nous sommes en état de grâce. » Il dit, « Plus on espère, plus on vit. » Et elle, plus on aime, plus on espère. Le rythme du chant aérien ne cessait pas d'attirer à lui leurs essences idéales. Il dit, « Comme tu es belle !» Une subite rougeur inonda ce visage passionné. Elle s'arrêta, palpitante, elle ferma presque les paupières, et elle dit d'une voix étouffée, il passe un courant chaud. Sur l'eau, de temps en temps, ne sens-tu pas une bouffée de tiédeur ? Elle aspira l'air. Il y a comme une odeur de foin fauché. Ne la sens-tu pas ? C'est l'odeur des algues. Les blancs commencent à découvrir. Regarde les belles campagnes. Ce sont les vignoles, et là-bas, c'est le Lido. Et là-bas, c'est l'île de San Erasmo. Le soleil s'envoile maintenant, dorait tout l'estuaire. L'humidité des bancs émergés limitait l'éclat des fleurs. Les ombres des petits cyprès devenaient plus longues et plus bleues. « Je suis certaine, dit-elle, que quelque part dans le voisinage des amandiers fleurissent. Allons sur la digue. » Elle secoua la tête en arrière par un de ses mouvements instinctifs qui semblait rompre un frein ou se débarrasser d'une entrave. Attends. Et retirant vite les deux longues épingles qui fixaient son chapeau, elle se découvrit la tête. Elle revint sur ses pas vers la rive et jeta dans la gondole la chose scintillante. Elle rejoignit son amie, légère, en relevant avec les doigts la masse de ses boucles, où l'air pénétra et où brillèrent les rayons. Elle parut éprouver un grand soulagement, comme si sa respiration se fût élargie. « Les ailes souffraient ?» dit Stélio en riant. Et il regarda le pli rude, fait non par le peigne, mais par la tempête. « Oui, le moindre poids me gêne. Si je ne craignais de paraître singulière, j'irais toujours tête nue. » Mais quand je vois les arbres, je ne puis plus résister. Mes cheveux se souviennent qu'ils sont nés d'espèces sauvages, et ils veulent respirer à leur guise, du moins dans le désert. Franche et vive, elle cheminait sur l'herbe avec une svelte ondulation. Et il se rappela ce jour où, dans le jardin de Gradenigo, elle lui avait paru ressembler au beau lévrier fauve. Oh! « Voici un capucin !» Le frère gardien venait à leur rencontre en les saluant avec affabilité. Il s'offrit au visiteur pour l'introduire dans le couvent. Mais il avertit que la règle interdisait l'entrée à sa compagne. « Irai-je ? » dit Stélio, interrogeant du regard son ami qui souriait. « Mais oui, va !» « Mais tu resteras seul, ben je resterai seul. Je te rapporterai une écaille du pain vénéré. » Il suivit le franciscain sous le petit portique au plafond de solive d'où pendaient les nids vides des hirondelles. Avant de franchir le seuil, il se retourna pour envoyer un salut à son ami. La porte se referma. « Oh beata solitudo, oh sola beatitudo !» Alors, de même que dans l'orgue, un changement de registre change instantanément les sons, de même toutes les pensées de la femme se transfigurèrent soudain. L'horreur de l'absence, le pire des maux, apparut à cette âme aimante. Son amie n'était plus là, elle n'entendait plus cette voix, ne sentait plus cette haleine, ne touchait plus cette main douce et ferme. Elle ne le voyait plus vivre, elle ne voyait plus l'air, la lumière, l'ombre, toute la vie du monde s'harmonisèrent avec cette vie. S'il ne revenait plus, et si cette porte ne se rouvrait plus, cela ne pouvait être. Certainement, dans quelques minutes, il repasserait le seuil et elle le ressaurait encore dans ses prunelles et dans son sang. Mais hélas, dans quelques jours, ne devait-il pas disparaître ainsi? Et d'abord la plaine, et puis la montagne, et puis les plaines et les montagnes, et encore les fleuves et le détroit, et l'océan, l'espace infini, que ne franchissent ni les cris ni les pleurs, ne devait-il pas s'interposer entre elles et ce front, ses yeux, ses lèvres? L'image de la vie brutale, noire de charbon, hérissée d'armature, occupa l'île paisible. Le fracas des marteaux, le grincement des treuils, le halètement des machines, l'immense gémissement du fer couvrirent la printanière mélodie. Et à chacune de ces simples choses, à l'herbe, au sable, aux eaux, aux algues, à cette plume suave qui descendait de là-haut, tombée peut-être d'une petite gorge chantante, s'opposèrent les rues inondées par les torrents humains, les maisons aux milieu difformes, pleines de fièvres ennemies du sommeil, les théâtres occupés par le trouble ou par la stupeur des hommes qui accordaient une heure de relâche à leur volonté férocement tendue pour la guerre des lucres. Et elle revit son image et son nom sur les murailles contaminées par la lèpre des affiches, sur les tableaux promenés à la ronde par les porteurs hébétés, sur les ponts gigantesques des fabriques, sur les portières des véhicules, en haut, en bas, partout. Tiens, regarde, une branche d'amandier. L'amandier fleurit dans le jardin du couvent, au second cloître, près de la courte du pain vénéré. Oh, et tu le savais! Stélio accourut, joyeux comme un enfant, suivi par le capucin souriant qui apportait un bouquet de thym. « Tiens, regarde, quel miracle !» Tremblante, elle prit la branche et ses yeux se voilèrent de larmes. « Mais tu le savais ?» Il aperçut entre les cils de son ami la lueur soudaine, quelque chose d'argenté et de tendre, une humidité lumineuse et fluide, qui rendit le blanc de l'orbite semblable aux pétales des fleurs. Alors, dans toute la personne de l'amante, il aima éperdument les stries délicates qui rayonnaient du coin des yeux vers les tempes, et les petites veines sombres qui rendaient les paupières pareilles à des violettes, et l'ondulation des joues, et le menton effilé, et tout ce qui ne pouvait plus refleurir, toute l'ombre répandue sur ce patio des visages. « Ah, mon père !» dit-elle avec une apparente gaieté, en réprimant son angoisse. « Le poverello ne va-t-il pas pleurer en paradis pour cette branche cassée ?» Le père sourit avec une malicieuse indulgence. « Quand ce bon seigneur, répondit-il, a vu l'arbre, il ne m'a pas donné le temps d'ouvrir la bouche. Il avait déjà sa branche dans la main. et j'ai pu dire seulement « Amen ». Mais le mendier est riche. Il était placide et affable avec sa couronne de cheveux presque tous noirs encore autour de la tonsure, avec son visage olivâtre et fin, avec ses grands yeux fauves qui resplendissaient limpides comme des topazes. « Voici le thym qui embaume, » ajouta-t-il en offrant les petites herbes. On entendait un chœur de voix juvéniles qui chantait un répond. « Ce sont les novices, nous en avons 15. » Et il accompagna les visiteurs jusqu'au pré qui s'étendait derrière le couvent. Debout sur la digue, au pied d'un cyprès fendu par la foudre, le bon franciscain montra d'un geste les îles fécondes, célébra leur abondance, dénombra les espèces des fruits, loua les plus exquises selon la saison, indiqua du doigt les barques faisant voile vers le Rialto avec les verdures nouvelles. « Laudato si, mi signore, per sola nostra maître terra, » dit la femme à la belle orange fleurie. Le franciscain fut sensible à la beauté de cette voix féminine, et il se tut. Deux hauts cyprès entouraient la prairie pieuse, et quatre d'entre eux, les plus vieux, portaient la marque de la foudre, étêtés et sans moelle. Immobiles étaient les cimes, seules formes ressortant sur la nappe unie des terres et des eaux qui s'égalisaient à la ligne de l'horizon. Pas la moindre bave de vent ne ridait le miroir uni. Les flancs algueux transparaissaient comme de clairs trésors, les roseaux palustres brillaient comme des verges d'ambre, les sables émergés imitaient le chatoiement de la nacre, la vase simulait la mollesse opaline des méduses. Un enchantement profond, comme une extase, béatifiait le désert. La mélodie des créatures ailées continuait encore dans les régions invisibles, mais il semblait qu'elle fût près de s'apaiser enfin dans la sainteté du silence. « À cette heure, sur les collines de l'Ombrie, » dit celui qui avait blessé la mendier claustrale, « chaque olivier a près de son pied, telle une dépouille, sa botte de branches taillée, et l'arbre semble plus doux parce que la botte cache la force des racines tordues. Saint François passe au milieu de l'air, et avec son doigt calme la douleur dans les plaies faites par la serpe. Le capucin se signa et prit congé. Loué soit Jésus-Christ. Les visiteurs le regardèrent, s'éloignant sur les ombres que jetaient les cyprès dans la prairie. Il a trouvé la paix, dit la Foscarina. Ne te semble-t-il point, Stelio ? Il y avait une grande paix sur son visage et dans sa voix. Regarde aussi sa démarche. Alternativement, une raie de soleil et une raie d'ombre touchaient la tonsure et le froc. « Il m'a donné une écaille de pain, » dit Stelio. « Je l'enverrai à Sophia, qui a une dévotion pour le séraphique. La voilà, oh, la plus odeur de la résine, sang. » À l'intention de Sophia, elle baisa la relique. Les lèvres de la bonne sœur s'opposeraient là où s'étaient posées les siennes. En voilà. Ils s'acheminèrent en silence, la tête penchée sur les traces de l'homme pacifié dans la rangée des cyprès chargés de cônes allant vers la rive. Ne désires-tu pas la revoir ? Demanda la Foscarina à son amie avec une timide tendresse. Oh oui, beaucoup. Et ta mère ? « Oui, oh, mon cœur s'en va vers elle, qui m'attend chaque jour. Mais tu ne voudrais point retourner là-bas ? Oui, j'y retournerai peut-être. Quand ? Je ne sais pas encore. Mais je désire revoir ma mère et ma sœur, je le désire beaucoup, Foscarina. » Et pourquoi ne pas y aller? Qu'est-ce qui te retient? Il prit la main qu'elle abandonnait le long de son côté. Ils continuèrent à marcher ainsi. Comme le soleil oblique les éclairait sur la joue droite, il voyait à côté d'eux s'avancer de pair sur l'herbe leurs ombres unies. Quand tu te représentais tout à l'heure les collines ombriennes, dit-elle, peut-être pensais-tu aux collines de ton pays? Cette image des oliviers taillés n'était pas pour moi une chose nouvelle. Je me rappelle qu'un jour tu m'as parlé de la taille. En aucune autre de ses œuvres, l'homme de la glaive n'a un plus profond sentiment de la vie muette qui réside dans l'arbre. Quand il est là, devant le poirier, le pommier ou le pêcher, tenant la serpette ou le sécateur qui doit accroître les forces et qui peut causer la mort, de toute la sagesse acquise par lui durant ses longs colloques avec la terre et avec le ciel, surgit l'esprit génial de la divination. L'arbre est à son heure la plus délicate lorsque sa sensibilité réveillée afflue dans les bourgeons qui se gonflent et sont prêts de s'ouvrir. Et l'homme, avec son fer impitoyable, doit régler l'équilibre dans le mystérieux mouvement de la sève. L'arbre est là, encore intact, ignorant d'Hésiode et de Virgile, en travail pour sa fleur et pour son fruit. Et chaque branche dans l'air est vivante comme l'artère dans le bras de celui qui taille. Et quelle est celle qui sera taillée? La sève guérira-t-elle la plaie? Ainsi me parlais-tu certains jours de ton verger, dont je me rappelle. Tu me disais que toutes les blessures devaient être tournées au septentrion pour que le soleil ne les vît pas. Elle parlait comme ce soir lointain de novembre, quand le jeune homme était arrivé chez elle, haletant à travers la bourrasque après avoir transporté le héros. Il sourit, et il se laissait entraîner par la chère main, et il sentait l'odeur de la blanche fleurie, pareille à l'odeur d'un lait un peu amer. « C'est vrai, dit-il. » L'aïmo qui pétrissait dans le mortier long blanc de Saint-Fiacre, et Sophia qui lui apportait la toile forte pour bander les plus larges plaies après le pansement. Il revoyait le paysan à genoux qui, dans le mortier de pierre, pétrissait la fiente de bœuf, l'argile et les balles d'orge selon les règles de l'antique sagesse. « Dans 10 jours, continua-t-il, toute la colline vue de la mer sera comme un nuage frais et rosé. Sophia m'a écrit pour m'en faire souvenir. Elle ne t'est point réapparue, mais elle est avec nous maintenant. Maintenant, elle s'approche de la fenêtre et regarde la mer qui s'empourpre. Et notre mère, accoudée près d'elle, lui dit... « Qui sait si Stélio n'est pas sur ce voilier qui est en panne devant le chenal pour attendre le vent? Il m'a promis de revenir à l'improviste par la voie de la mer sur une goélette. Et le cœur lui fait mal. Alors pourquoi trompes-tu son attente? Oui, Fosca, tu as raison. Je peux vivre loin d'elle pendant des mois et avoir le sentiment que ma vie est pleine. » Et puis une heure vient où rien au monde ne me paraît plus doux que ces yeux-là, et il y a une partie de moi-même qui reste inconsolable. J'ai entendu les marins de la mer Tyrrhénienne appeler l'Adriatique le golfe de Venise. Ce soir, je songe que ma maison est sur le golfe, et elle me semble plus voisine. Ils avaient rejoint la gondole. Ils se retournèrent pour regarder l'île de la prière où se dressaient les cyprès implorants. Il est là-bas, le canal des trois ports, qui conduit à la mer libre, dit le nostalgique, s'imaginant déjà lui-même sur le pont de la goélette, en vue de ses tamaris et de ses myrtilles. Ils s'embarquèrent. Longtemps ils se turent. La mélodie continuait à descendre sur l'archipel Clément. De même que la lumière du ciel imprégnait le sol de soie les eaux, de même le chant du ciel se posait sur les terres. Mais, en face de la splendeur occidentale, Burano et Tolchallo apparaissaient comme deux galions ensablés. Mais les nuages se disposaient en phalanges là-bas vers les Dolomites. Maintenant que le dessin de ton œuvre est achevé, dit-elle, continuant sa douce persuasion, tandis que son âme tremblait dans sa poitrine, tu n'as plus besoin que de paix pour ton travail. N'as-tu point toujours travaillé là-bas, dans ta maison? Et nul autre lieu, en nul autre lieu, tu ne pourrais apaiser l'anxiété qui te suffoque. Je le sais. Il dit, c'est vrai, oui, quand la fureur de la gloire nous prend, nous croyons que la conquête de l'art ressemble au siège d'une ville forte et que les fanfares et les clameurs accompagnent dans l'assaut le courage, tandis que rien ne vaut, sinon l'œuvre qui croit dans le silence austère, rien ne vaut, sinon l'obstination lente et indomptable, rien ne vaut, sinon la dure et pure solitude, rien ne vaut, sinon l'entier abandon de l'esprit et de la chair, l'idée que nous voulons faire vivre pour toujours, au milieu des hommes, comme une force dominatrice. « Ah, tu le sais !» s'écria la femme. Et ses yeux se remplirent de larmes à ces paroles sourdes, où elle avait senti la profondeur de la passion virile, le besoin héroïque de la domination morale, le ferme propos de se surpasser soi-même et de forcer sans trêve son destin. « Tu le sais !» Et elle eut le frisson que donne les spectacles fiers. Et devant cette volonté courageuse, tout le reste lui parut vain. Et les autres larmes, celles qui avaient voilé ses yeux à l'offrande des fleurs, lui parurent féminines et viles, en comparaison de celles qui maintenant lui montaient aux paupières et qui seules étaient dignes d'être bues par son amie. Eh bien, va en paix, retourne à ta mère, à ta terre, à ta maison, rallume ta lampe avec l'huile de tes oliviers. Il serrait les lèvres et un sillon s'était creusé entre ses sourcils. La bonne sœur viendra encore mettre un brin d'herbe sur la page difficile. Il pencha son front alourdi par une pensée. Tu te reposeras en parlant avec elle à la fenêtre, et peut-être verrez-vous repasser les troupeaux voyageant de la plaine vers la montagne. Le soleil allait toucher la gigantesque acropole des Dolomites. La phalange des nuages s'agitait comme dans un combat, traversée par d'innombrables dards de lumière et se couvrait d'un sang merveilleux. Les eaux élargissaient l'immense bataille livrée aux environs des tours inexpugnables. La mélodie s'était dissoute dans l'ombre des îles déjà éloignées. Tout l'estuaire se couvrait d'une sombre et guerrière magnificence, comme si une myriade d'étendards s'y fût inclinée. Et le silence n'attendait qu'un éclat de trompettes impériales. Il dit lentement, après une longue pause, « Et si elle m'interroge sur le destin de la Vierge qui lit la lamentation d'Antigone ?» La femme tressaillit. « Et si elle m'interroge sur l'amour du frère qui fouille les tombeaux ?» La femme eut peur de ce fantôme. Et si la page où elle brosse le brin d'herbe est celle où cette âme tremblante raconte sa lutte secrète et désespérée contre l'horrible mal? Dans son effroi soudain, la femme ne trouva pas de parole. Ils se turent tous les deux et regardèrent fixement les pics aigus de la chaîne lointaine qui flamboyait comme s'il venait de sortir à l'instant même du feu primordial. Le spectacle de cette grandeur déserte et éternelle éveillait dans leur esprit un sentiment de mystérieuse fatalité et comme une terreur confuse qu'ils ne savaient ni surmonter ni comprendre. Venise était obscurcie par cette masse de porphyres ardents. Elle gisait sur les eaux, tout enveloppée dans un voile violacé d'où émergeaient les stèles marmoréennes édifiées par le travail des hommes pour garder les bronzes qui donnent le signal des prières accoutumées. Mais les œuvres et les prières accoutumées des hommes, mais l'antique cité, lasse d'avoir trop vécu, mais les marbres disjoints, les bronzes usés, mais toutes ces choses opprimées par le fardeau des souvenirs et condamnées à périr, se faisaient humbles en comparaison de la terrible Alpe embrasée qui déchirait le ciel de ses mille points inflexibles, cité morne et seule, attendant peut-être un jeune peuple de titans. Soudain, après un long silence, Stelio demanda « Et toi ?» Elle ne répondit rien. Les cloches de Saint-Marc donnèrent le signal de la salutation angélique, et leur bourdonnement puissant se propagea en larges ondes sur la lagune encore sanglante qu'il laissait au pouvoir de l'ombre et de la mort. De San Giorgio Maggiore, de San Giorgio dei Greci, de San Giorgio degli Schiavoni, de San Giovanni di Bragola, de San Moise, de la Salute, du Redentore, et ainsi de suite, par tout le domaine de l'évangéliste, depuis les tours écartées de la Madonna dell'Orto, de San Giobbe, de Sant'Andrea, les voix du bronze répondirent, se confondirent en un seul cœur immense, étendirent sur le muet assemblage des pierres et des eaux une seule coupole immense d'invisible métal qui, par ses vibrations, parut communiquer avec le scintillement des premières étoiles. Ils frissonnèrent tous deux lorsque la gondole, passant sous l'arche du pont qui regarde l'île de San Michele, pénétra dans l'humidité du rio obscur et rasa les péotes noires qui pourrissaient le long des murs corrodés. Les campaniles voisins de San Lazzaro, de San Canciano, de San Giovanni e Paolo, de Santa Maria dei Miracoli, de Santa Maria del Pianto, répondirent d'autres voix, et le bourdonnement sur leur tête était si fort qu'ils croyaient le sentir dans les racines de leurs cheveux comme un frisson de leur propre chair. C'est toi, Daniele? Stelio crut reconnaître à la porte de sa maison, sur le quai Sanudo, la figure de Daniele Glauro. Ah, Stelio, je t'attendais! Lui cria dans la rafale des sons la voix haletante de son ami. Richard Wagner est mort.